Bonjour à tous. Dieu est bon. Amen. Vous le croyez ? Il y a une chose qui n'est pas écrite dans l'évangile de Marc, qui vient d'être lu, en tout cas le premier chapitre, c'est l'histoire de Philippe et Céline. Parce qu'on a pu entendre à l'instant les merveilles que Jésus-Christ a accomplies dans les premiers jours de son ministère sur terre. Et je pense, comme vous tous ici présents ce matin, vous avez tous vécu des grandes choses. Et ce que je vous propose, enfin, puisque ça nous a été proposé, et merci encore pour votre accueil, bah, c'est qu'on vous parle, vous avez du temps, parce qu'on a 30 ans de... Non, ça va ? On a une deadline ? Non ? Voilà. Donc, nous sommes mariés depuis 1992, parents de 6 enfants, dont la première a 25 ans, qui nous a fait grand-père et grand-mère il y a 2 ans. Voilà, j'avais dit à Camille, écoute, moi je ne suis pas prêt pour être grand-père, elle ne m'a pas écouté. Bon, bah, voilà. Et Emmanuel a 21 ans, tu me dis si je me trompe. Hein.
Oui, je te le dis.
Emmanuel a 21 ans, Quentin a 19 ans, Esther, ici présente, en a 15, Salomé, 12, et notre petite dernière, Gabrielle, qui a 9 ans, et comme ça se voit tout de suite, elle est martiniquaise. Donc marié en 92, et puis, en quelques mots, voilà ce qui s'est passé dans notre vie. Moi, j'ai été éduqué dans une famille, mon père était d'origine protestante, ma mère catholique, ils se sont mariés à l'église traditionnellement, mais sans pour autant avoir une religion, sans pour autant pratiquer. Quoi que ce soit, le dimanche, on n'allait pas ni à la messe, ni au culte, mais il y avait quand même cette graine qui avait été semée. Et mes parents ont voulu, dès mon plus jeune âge, à ce que je puisse aller au catéchisme, ou en tout cas dans un groupe de jeunes. Et j'ai donc été élevé dans cette ambiance un peu, enfin dans cette connaissance, au fur et à mesure, qui a commencé à se construire de la parole de Dieu, en ayant certains indices qui se sont un petit peu éclairés au fur et à mesure de ma marche, et à 15 ans, c'est la première fois de ma vie où j'entendais parler de la nouvelle naissance. Nouvelle naissance, hein, qui est relatée dans Jean 3, Jean 4. Et je ne comprenais pas. En fait, j'avais cette connaissance intellectuelle de tout ça, de Dieu, que je voyais avec une grande barbe blanche assis sur un trône, très très loin de moi, et qui était là pour me taper sur la tête avec le tranchant de la Bible, vous savez, là où ça fait bien mal. À chaque fois que je faisais une bêtise. Et donc, ça a fait son bonhomme de chemin. Et pourtant, pendant de nombreuses années, j'ai cherché Dieu. J'ai cherché Dieu et jusqu'à ce que je rencontre la femme merveilleuse qui est à côté de moi. Si, c'est bien toi. Ma meilleure moitié, comme je dis. Et voilà, on s'est rencontrés purement par hasard. Je venais de m'engager dans la Marine nationale le 3 janvier 1990. On s'est rencontrés le 11 février. Et là, ma vie a basculé. Enfin, première bascule. Hein. Dans le sens où j'ai rencontré la femme qui allait devenir mon épouse. Et voilà, on s'est mariés donc en 92. Tu m'interromps hein, si tu veux dire.
Oui, non, je t'écoute.
On s'est mariés en 92 et puis on a mis du temps à voir Camille, qui est née en 94. Et elle est quand même arrivée. Avant de se marier, on ne voulait pas d'enfant. Hein. Céline et moi, dans les enfants, ça crie, ça pleure, ça fait trop de bruit. Et puis quand on s'est connus, on a dit, bah, ils vont être trop beaux, nos enfants, donc on va être obligés de... Voilà, on va être obligés. Donc Camille est arrivée en 94, et là, deuxième chamboulement, pour ceux d'entre vous qui ont ce bonheur d'avoir des enfants, il faut bien reconnaître que l'arrivée d'un enfant dans la vie d'un couple, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais aussi de très déstabilisant. Et là, je vais laisser la parole à Céline.
Oui, donc voilà, nous avons eu Camille. Et puis, j'ai pris énormément de poids pendant ma grossesse. J'ai dû prendre 30 kilos. Et donc, j'ai été mise sous régime parce que je faisais du diabète gestationnel. Donc, j'ai commencé, donc on m'a mis sous régime. J'ai commencé à perdre du poids. Et puis là, j'ai commencé l'engrenage. Je suis tombée dans l'anorexie, en fait. J'ai à peu près perdu plus de 50 kilos en 6 mois. Donc, pour m'aider, parce que en fait, c'est complètement psychologique, hein, c'est mental quand vous vous regardez dans le miroir, c'est pas vous que vous voyez, hein, Et donc, je suis tombée dans cet engrenage-là. Philippe ne rentrait pas le midi, donc pour moi, c'était facile de ne pas déjeuner. Je faisais à manger pour ma fille et puis je ne mangeais pas. Je m'aidais avec des médicaments à base de morphine. Ça permettait d'enlever les migraines et puis les coups de pompe quand vraiment ça, j'avais faim. Et puis voilà. Mais on se sent quand même très... un peu un super héros parce qu'on se dit on contrôle notre corps, on arrive à gérer tout quand je ne veux pas manger, je ne mange pas, on a l'impression d'être fort en fait, mais c'est pas le cas parce qu'il y a bien sûr des inconvénients, hein. Au niveau les gencives remontent, on perd ses cheveux, mon Dieu, à cette époque-là c'était la balance. Il suffisait que je mange une feuille de salade et puis c'était direct sur la balance. Donc comment gérer ? Bon, on se coupe de la vie sociale parce qu'on se dit, bon, on a invité à déjeuner, on a invité à dîner, qu'est-ce qu'on va manger ? Comment on va faire ? Comment on va passer pour ne pas manger ? Et puis un jour, et tout ça en prenant toujours de la morphine... je ne sais pas d'ailleurs, maintenant en y repensant, comment j'arrivais à m'en procurer, c'était assez... assez banal en fait. Et donc un jour, j'ai passé le balai et puis j'ai senti vraiment une très vive douleur au niveau des côtes. Donc j'étais allongée et puis là Philippe me dit, écoute, on va aller aux urgences, on va aller voir ce que t'as. Et en fait, en passant le balai, je me suis fêlé une côte et l'infirmier qui s'occupait de moi me disait, vous voyez dans votre radio là, toutes vos côtes sont en train de se fêler. Et ça m'a pas fait de déclic en fait. Franchement, j'étais vraiment dans cette optique. Je n'avais pas l'impression d'être malade. Je m'habillais dans les magasins d'enfants. Hein, le 14 ans m'allait très bien.
S'habiller chez Mattel. Je ne fais pas de publicité, non, je plaisante.
Tu me fais perdre le fil de mon témoignage. Et puis... mais arrête.
J'ai rien dit.
J'étais bien partie, là, en plus. Donc voilà, j'en étais où ?
Il n'y avait pas de problème en fait.
Voilà, pour moi, il n'y avait pas de problème. Et puis dans notre couple, en fait, ça n'allait pas vraiment du tout. Hein. Ça n'allait pas du tout même.
Non, parce que là où je disais que ça déstabilise l'arrivée d'un enfant, c'est que l'attention qu'on avait l'un pour l'autre quand on est jeune marié, pendant ces 4 premières années, tout d'un coup, l'arrivée de cet intrus, en quelque sorte, qui est un vrai bonheur, attention, vous ne me prenez pas sur mes propos, fait que notre attention se concentre sur le nouvel arrivant, donc sur Camille. Et c'est vrai que moi qui connaissais pas Dieu, j'étais pas encore converti, Céline non plus, je me disais, bon, ça va aller, et puis vous savez, les hommes sont forts, hein, on va s'en sortir, on va se relever. Et puis le temps passant, toute l'attention dont je méritais, quand même, de mon épouse, je ne l'avais plus. C'est sur Camille qu'elle était concentrée. Et effectivement, notre couple commençait à rencontrer un certain nombre de difficultés. Même si moi, je gardais espoir, on voyait bien que ce que Céline vient vous expliquer par rapport à son anorexie, plus l'attention sur Camille, qui, malgré tout, je pense, ressentait un certain nombre de choses, faisait que ça devenait vraiment compliqué. Et dans cet entrefait, mes parents, on a appris ça plus tard, avaient fait une vraie rencontre avec Dieu et s'étaient convertis quelques mois avant la visite qu'ils allaient nous rendre à Toulon. Ah oui, je te laisse finir. Fini.
Le meilleur. Donc un après-midi, j'avais couché Camille et puis je me suis couchée. Bon, j'avais pris ma morphine pour les migraines. Et puis à un moment, j'entends Camille pleurer dans son lit et là, impossible de se lever. Vraiment, j'étais tellement fatiguée, tellement sans force, sans rien. Et là, j'avais entendu parler de Dieu sans jamais vraiment faire le pas. Et là, j'ai dit, écoute Seigneur, si tu existes, tu me guéris. Tu fais quelque chose pour moi dans ma vie, mais je veux le voir maintenant. Et j'ai réussi à me lever. Et là, dans mon couloir, je m'en souviens encore tellement c'était... Dans mon couloir, il y avait une lumière, un soleil, en fait. Et j'ai suivi tout mon couloir et j'étais guérie. sans autre. J'ai commencé à remanger, je ne me suis pas posé de questions. J'ai été guérie instantanément. La morphine terminée, mais je me souviens encore de ce couloir de lumière où on dit souvent dans les films, non, on n'entre pas dans la lumière. Et ben moi, je l'ai suivi. Et voilà, depuis ce temps-là, je suis la lumière.
Et du coup, c'est moi qui ai perdu le fil. Ah ben, je vous dis, il y a 30 ans. Alors, Toulon, effectivement, donc tout ça se passe à Toulon. Et mes parents, qui s'étaient convertis peu de temps avant nous, nous rendent visite à Toulon. Et en plein milieu de cette expérience difficile, je me souviens de mon père qui me disait, mais il y a un truc qui cloche là. Alors, on avait une petite bibliothèque à l'époque avec quelques ouvrages. Et dans mes recherches, je cherchais Dieu dans tout un tas de choses, dans l'ésotérisme, dans le... voilà. Et puis il y avait ma Bible derrière, qui était ma Bible d'adolescent avec ces petits cavaliers que j'avais collés. Et mon père me disait, mais il n'y a pas un truc qui cloche là, il y a ça, entre la Bible et ça. Il dit, ouais, mais attends, ouais, moi je sais, la Bible ça c'est Dieu, puis ça, je ne sais pas trop, mais peut-être que... Et encore une fois, ça a alimenté ma propre recherche. Et du coup, quelques semaines après, c'est nous qui rendons visite à mes parents et qui nous font rencontrer un homme chrétien qui nous a témoigné de sa vie, de sa conversion. Ça a duré 3 heures. Et ces 3 heures-là, elles ont duré 5 minutes. Et pendant ces 3 heures, nous qui fumions, on n'a pas fumé une seule cigarette. Et pour un fumeur, je peux vous dire que 3 heures sans fumer, ça peut être long. Et quand on est rentré à Toulon, nos écailles des yeux étaient tombées. C'est comme, je prends souvent cette image de... Alors, je n'ai jamais fait d'escrime, mais vous avez déjà essayé un masque d'escrimeur ? Vous voyez qu'au travers d'un grillage, c'est comme si voilà, ça s'était tombé. Et là, cette grâce, c'est qu'on a vécu la même chose en même temps. Dieu nous a fait passer par un chemin en commun et personnel, l'expérience que vient de vous raconter Céline, pour qu'on fasse cette rencontre avec lui au même moment, tous les deux. Et quand on est rentré, je peux vous expliquer qu'il y a eu du ménage. Je peux vous dire qu'il y a eu du ménage de fait dans la maison, alors pas qu'au sens propre, mais aussi au sens figuré. La bibliothèque a vu un ménage drastique dans la littérature qui la composait. Et là, c'est là où on voit la main de Dieu vraiment. Si certains d'entre vous se posent la question ou se sont posé la question, à savoir est-ce que Dieu m'aime, est-ce qu'il est au fait, est-ce qu'il sait ce qui se passe dans ma vie, on se rend compte que même avant notre conversion, Dieu était déjà là. Quand on retrace même le fil de notre rencontre, il y avait déjà la main de Dieu sur notre rencontre. Il fallait qu'on se retrouve à ce moment-là dans Brest. Il fallait qu'on se rencontre. Il fallait que Dieu nous garde jusque-là l'un l'autre pour qu'on puisse se rencontrer et se marier et avoir de
nombreux enfants.
Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Donc voilà, on rentre à Toulon, on fait un ménage formidable dans notre bibliothèque. Et là où je dis que Dieu avait la main sur nous, c'est que on se promenait souvent dans Toulon, hein, ne serait-ce que pour aller faire des courses. Et régulièrement, il y avait un petit papy qui était là, dans la rue, avec ses traités, avec ses bibles. Et puis, moi, j'aime bien discuter avec les gens, donc on discutait régulièrement avec ce papy. Et puis, un jour, il nous remet un traité, avec ce traité qu'on avait mis dans le fond d'un tiroir. Et quand on a vécu cette expérience avec Dieu, où on revient à Toulon et vraiment transformé, on parlait aux mendiants, on leur donnait nos paquets de cigarettes parce qu'on avait été guéris, enfin, délivrés. À un moment donné, on ressentait le besoin d'aller vers une église. Et Céline a dit, tiens, au fait, on fouille dans le fond des tiroirs, ou c'est toi qui fouilles hein, dans le fond des tiroirs,
ouais, c'est moi
qui sont bien rangés. Je ne sais pas vos tiroirs, mais enfin les nôtres, c'est une catastrophe. Et on tombe sur ce traité et on retrouve l'adresse. Alors c'était une église pentecôtiste à Toulon, dans laquelle on est allé pendant 2 ans. Voilà. Et Dieu nous a nourris. Pendant 2 ans, on était... On était plein du feu, enfin toujours, hein, mais on a pris de la sagesse maintenant. Le feu du premier amour, comme je vous disais, on témoignait aux gens dans la rue, enfin, c'était extraordinaire. On a perdu un certain nombre d'amis,
il
faut reconnaître, qui n'ont pas compris ce qui se passait. Parce que, pas qu'on leur ait mal expliqué, mais parce que je pense qu'on a manqué de sagesse aussi à un moment donné. Et puis, Dieu nous a montré tout de suite, ne mettez pas votre confiance dans les hommes. Mais mettez votre confiance en moi. Et ça, très vite, alors on a cheminé, hein, de l'église pentecôtiste. Après, au gré des mutations, vous vous en rendez compte, on est quand même amené à bouger beaucoup. Et on est allé donc dans plusieurs églises et on a vraiment grandi. Dieu nous a formés dans l'église et Dieu aussi a permis, quand on est parti en Polynésie, alors qu'on était dans une église à Hyères les Palmiers, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, dans la région toulonnaise, on a vécu des choses extraordinaires. On a vécu une présence de Dieu dans la louange. Moi, j'ai passé les premières années de ma conversion allongé par terre pendant la louange, à mouiller le carrelage de mes larmes, parce que Dieu me faisait passer, le Seigneur me faisait passer par des moments de guérison dont j'avais besoin. J'ai toujours, mon père était gendarme, et on est tous différents, et dans l'éducation que j'ai reçue, mon père a toujours cette difficulté d'exprimer ses sentiments, dire je t'aime à ses enfants. Je ne me souviens pas l'avoir déjà entendu une fois, et mon père me serrait dans ses bras. Ça a dû arriver peut-être une ou deux fois depuis qu'on est converti. Mais pour vous dire que je n'ai pas été battu, je n'ai pas eu une enfance terrible, mais malgré tout, ce manque d'expression de l'amour du Père, ben je la recevais de Dieu dans les premières années de ma conversion, je la reçois toujours d'ailleurs. Mais comme quoi Dieu guérit les cœurs et en profondeur. Donc ça, faites-lui confiance. Donc, on part en Polynésie après avoir connu cette église à Toulon, et on a vécu une vraie déchirure de cette église à hier parce qu'on avait un tel amour pour les frères et sœurs. Et je pense que Dieu a voulu qu'on passe aussi par cette expérience pour nous montrer cette parole qu'il nous avait dite dès le premier jour: mettez votre confiance en moi, ne mettez pas votre confiance dans les hommes. Et on s'est rendu compte avec le recul qu'on avait un amour... vous connaissez comme moi, l'amour se caractérise par trois définitions. L'amour éros, l'amour philéo et l'amour agapé. Et dans l'amour qu'on avait pour nos frères et sœurs, il y avait beaucoup d'amour fraternel, mais beaucoup de sentiments. Ce qui est normal, mais quand on est déséquilibré, on se rend compte que ça peut occasionner des blessures. Et on a été blessés de les avoir quittés. On a mis 6 mois en Polynésie à pleurer, à se dire « Oh, on veut retourner ailleurs, on veut revoir nos frères et sœurs. » Mais Dieu a permis ça pour qu'on se rende compte que, on était dans une espèce de bocal où on était bien, entre poissons, entre ictus. Et puis, on était bien, mais on était enfermés sur nous-mêmes. On parlait plus, de moins en moins, aux gens, même à nos voisins. Et là, c'était un vrai, comment dirais-je, un petit signe de Dieu. Attention. Oui, je suis là. Oui, je vous fais du bien pendant les cultes. Et c'est nécessaire pour passer par ces restaurations. Mais n'oubliez pas, il y a de la souffrance à l'extérieur. Et ça, on a reçu ce signal d'alarme quand on est allé donc en Polynésie. Et en rentrant, on n'avait qu'une idée, c'était de retourner à Toulon, absolument, enfin à Hyères, pardon. Et avant de retourner à Hyères, on passe des cocotiers de la Polynésie au parapluie de Cherbourg. Je vous laisse imaginer le contraste. Bon, ça s'est bien passé, hein, parce qu'on a vécu dans un gîte et on a vécu 10 mois, le temps d'une année scolaire. Et ensuite, donc, de Cherbourg, on est enfin redescendu à Hyères. Et là, patatras. Qu'est-ce qui s'est passé? Autant Dieu, le Seigneur, nous avait continué à nous faire progresser dans sa parole, à continuer à nous enraciner dans sa parole, quand on est retourné à Hyères, ça a été un choc pour nous. Alors, outre la joie, effectivement, de retrouver nos frères et sœurs, évidemment, on s'est rendu compte que les mêmes problèmes qu'il y avait dans cette assemblée, quand on est parti 2 ans et demi avant, on a retrouvé les mêmes. Et là, le Seigneur nous disait... encore une fois, faites-moi confiance. Et là, c'était vraiment très dur, parce que même si on considère que l'Église n'est pas parfaite, à partir du moment où je suis dans l'Église, elle n'est plus parfaite. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je suis un pécheur, mais un pécheur sauvé, mais pas parfait. Donc, l'Esprit de Dieu qui habite en moi et qui veut m'inviter, enfin me pousser à vivre selon l'Esprit de Dieu, bah, il m'arrive d'être maladroit et puis de blesser des gens. Mais l'Église parfaite n'existant pas, dans cette Église ailleurs où effectivement on s'est rendu compte que ça n'avait pas évolué, on arrivait même à parfois être même souvent en désaccord avec ce qui était prêché. Et vraiment, on a reçu cette parole tous les deux, où Dieu nous disait « Partez ». Et là, c'était encore plus difficile parce que je ne pouvais pas prétexter d'une mutation. Et il a fallu partir. Et c'était très, très dur. Et je me souviens, à un moment donné, dire au Seigneur « Mais non, moi, je ne suis pas Abraham. Tu dis « Va, mais je vais où ?»« Pars. »« Ouais, mais je vais où ?»« Pars. » Donc, on est parti et on a trouvé notre église à pas loin. Mais Dieu nous fait passer par des expériences parfois douloureuses. Et souvent, quand on est dans le dur, je ne sais pas vous, hein, mais on se dit, mais t'es où ? Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous connaissez ce verset ? Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Mais avant de passer par ces expériences douloureuses, on ne réalise pas vraiment ce que Dieu dit. Céline a fait 2 embolies pulmonaires. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'une embolie pulmonaire. C'est un caillot qui remonte progressivement jusqu'au cœur, et si jamais il atteint le cœur, c'est fatal. Et quand je dis tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, quand on est dans ces expériences-là, où votre meilleure moitié est hospitalisée, la première fois, c'était peu après la naissance d'Esther. Là, vous passez par le creuset. On passe par le creuset parce que forcément, quand votre épouse est entre la vie et la mort et que vous avez 4 enfants, vous vous dites « Dieu, t'es là. Qu'est-ce qui va se passer ? Je te fais confiance. » Alors, vos sentiments, enfin vos émotions font le yo-yo, hein. Autant vous pouvez être en haut en disant « Seigneur, merci parce que je crois que tu guéris. Je te crois suffisamment puissant, ton bras n'est pas trop court pour agir et tu vas guérir mon épouse. » Et puis 5 minutes après, vous pouvez être par terre parce que vous avez une pensée qui arrive et si jamais elle disparaissait, qu'est-ce que tu deviendrais ? Et là, je peux vous dire que autant j'ai mouillé le carrelage de mes larmes quand j'étais guéri dans mon cœur de l'amour du Père, autant j'ai aussi là mouillé le carrelage de mes larmes parce que je disais à un moment donné, et je me suis surpris à dire, Seigneur, tu fais ce que tu veux. Et Dieu veut dans notre vie qu'on s'abandonne à lui complètement. On n'est que de passage sur cette terre. Et le fait, alors, que de passage sur cette terre, nous qui sommes, on est des nomades, hein, alors au sens propre du coup, sens propre du terme, on a entre Toulon, Cherbourg, Brest, la Polynésie, la Martinique, et j'en passe encore, j'en oublie certainement. On se rend compte un peu plus à chaque mutation qu'on est là que de passage. Et vous ne nous verrez que de passage. Donc préparez-vous déjà. Bon, on a le temps, hein, c'est au moins pour 3 ans. Mais quand on... Je vous parle de vraiment du plus profond de mon cœur, ce que j'ai vécu quand Céline était à l'hôpital. On n'est que de passage sur cette terre et rien ne nous appartient. Notre conjoint ne nous appartient pas. Nos enfants ne nous appartiennent pas. Et je dis ça avec d'autant plus de gravité que je sais que parmi vous, vous traversez des expériences difficiles. Mais quelle grâce, quelle assurance nous avons de savoir que nous avons cette espérance au plus profond de nous qui nous assure qu'on est déjà assis dans les lieux célestes avec lui. Et là, on se rend compte que peu importe ce qui puisse se passer, Dieu ne nous a pas dit qu'il nous épargnerait. Hein. Il nous a dit qu'il sera dans notre barque tout le temps, dans toutes les tempêtes qu'on peut traverser. Et Dieu est là. Dieu est là, mais je n'avais pas trop compris la première fois, en fait. Quand je vous dis Céline a fait une deuxième embolie pulmonaire, c'est arrivé peu après la naissance de Gabriel, qui a 9 ans, qui est né en Polynésie, qui est né en Martinique. Et là, je me suis retrouvé une deuxième fois, cette fois-ci avec 6 enfants, dont un nourrisson. Tu veux raconter un peu ce que tu as vécu pendant ces moments à l'hôpital ?
Non, là, ça va.
Non, ça va ?
Ouais, là, ça va. Vas-y, t'es champion.
Non, parce que elle est un peu timide, mais quand on est tout seul sur un lit d'hôpital, on se pose aussi beaucoup de questions. Donc tu... Oui, pour la prochaine ? Pour la prochaine quoi ? Non. La prochaine fois ? Oui, on va en garder un peu. Deuxième expérience, alors tout aussi compliquée, et encore plus, puisque avec un nourrisson, et puis la difficulté, enfin le sentiment de Céline qui venait d'accoucher, Gabriel avait une semaine.
4 jours.
Mais Dieu était là. Dieu était là, et on a traversé cette tempête avec gloire, gloire et puissance, comme vous pouvez le voir aujourd'hui, puisqu'on est là pour vous en témoigner. J'ai cette parole qui me vient, en fait, que j'ai entendue quand j'étais déjà adolescent. C'était la première fois, en fait, qu'il y avait un verset de la parole qui avait une vraie résonance. Moi, j'appelle ça des « waouh ». Je ne sais pas si vous avez expérimenté ça déjà, ou vous l'avez certainement déjà expérimenté. On appelle ça un « réma », hein, une parole révélée de Dieu. Vous pouvez lire un passage de la Bible, vraiment, un nombre incalculable de fois, jusqu'au moment où vous allez faire « waouh ». Moi, j'appelle ça des « waouh ». J'avais jamais compris ça comme ça. Et là c'est une chose extraordinaire que l'Esprit de Dieu fait quand vous lisez la parole. Jérémie 33, 3, « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Invoque-moi et je te répondrai. » Quelles que soient les circonstances, j'ai appris à invoquer Dieu. On a appris à invoquer Dieu. Invoque-moi et je te répondrai. Et je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Voilà la marche que Dieu veut que nous ayons avec lui, je pense. Et dans toutes ces... Alors, on a grandi donc, au fil de nos rencontres dans les églises, au fil de notre vie chrétienne. Donc notre vie chrétienne qui a commencé, en fait, on a 30 ans, hein, 96. Oui, enfin, bon, j'en ai presque 50, mais on a 30 ans de vraie vie. On a continué à grandir, et donc j'ai fait... je joue un peu de guitare, et j'ai fait la louange dans des églises, Céline, l'école du dimanche, et puis on a continué à croître comme ça. Sachant que, encore une fois, rien ne nous appartient, on ne vient pas chercher quoi que ce soit, on vient donner ce que le Seigneur nous a donné. Dans toutes les assemblées dans lesquelles on a la joie d'être accueillis, notre prière, c'est d'être dans l'église dans laquelle Dieu veut qu'on soit. Bon, je vous dis, on a la conviction que c'est l'église dans laquelle Dieu veut qu'on soit.
On l'avait demandé. Hein.
Donc voilà, on vient avec ce qu'on a. Et est-ce que je peux... Tu veux dire quelque chose ?
Non.
Toujours rien ? Est-ce que vous avez des questions ? Ah oui, bah attendez, je vous parle quand même un petit peu de... Alors, pourquoi on est à Lille ? Pourquoi on est à Lambersart ? Bon, je suis désolé, on parle beaucoup de nous. Hein. C'est un peu le but. Donc, vous l'avez compris, j'étais marin depuis 1990. Et après 30 années de carrière, ça faisait 10 ans que je réfléchissais, parce que Dieu m'avait mis ça sur le cœur, à intégrer l'aumônerie militaire. Alors, vous savez que dans notre beau pays laïque de France, l'État est laïque, donc ne se prévaut d'aucune religion. Mais dans cette laïcité, il garantit aussi à tout citoyen français l'exercice libre du culte, de son culte. Et c'est dans ce cadre-là que l'État rémunère des aumôniers dans les prisons, dans les écoles, dans les hôpitaux et dans les armées, pour justement permettre à ces citoyens qui sont dans des milieux clos, comme ceux que je viens de vous citer, d'exercer la liberté de leur culte. Vous pouvez imaginer qu'un militaire, lorsqu'il part sur un théâtre d'opération, que ce soit dans la bande sahélo-saharienne, au Mali, au Liban ou même ailleurs, quand on vit dans un camp pendant 4 mois, on n'a pas trop la liberté de sortir et d'aller au culte, ou d'aller à la messe. L'aumônier est là pour ça. Ça, c'est la première mission de l'aumônier. La deuxième mission de l'aumônier, mais je dirais la principale ici sur l'Hexagone, parce que sur l'Hexagone, chacun a la liberté de rentrer chez lui pour aller au culte, c'est surtout ce travail de soutien moral de relations d'aide, d'écoute, parce que nos armées sont composées de citoyens comme vous et moi, et qui ne sont pas épargnés par les problèmes de la vie, d'une part, et aussi qui sont confrontés à la mort. On le voit malheureusement régulièrement dans les médias, des frères d'armes qui tombent. Et quand on est dans ces situations, on est face à notre propre mort et face à notre propre réflexion. Qui suis-je, où vais-je, dans quelle étagère? Bon, ça fait rire personne. Mais c'est vrai que l'homme se pose, et la femme aussi évidemment, se pose régulièrement des questions fondamentales comme celle-là, et l'aumônier doit être là pour y répondre. Donc voilà la mission de l'aumônier. Et donc je réfléchissais à ça pendant 10 ans. Parce que Céline me l'a dit.
Parce que j'étais pas d'accord non plus. Mais t'es en face du micro. Ah oui, j'étais pas d'accord non plus, hein. On peut pas toujours être d'accord.
C'est vrai.
Bon, après, le Seigneur m'a fait changer d'avis. Donc voilà.
Ouais. Pourquoi il t'a fait changer d'avis? On fait une thérapie de couple en même temps,
ouais, vous avez remarqué ça. Je ne sais pas.
Bref, pour vous dire qu'il y a des projets, les projets de Dieu, alors, comme je l'ai dit, hein, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Les projets de Dieu se mènent en famille. Et il n'était pas question que je rentre dans l'aumônerie sans que Céline soit d'accord. Parce qu'il y a un impact. Parce que, quand même, j'ai demandé l'île Maurice, on se retrouve à Lille. Donc on ira chez Maurice. Vous m'indiquerez hein, s'il y a un Maurice à Lille. Et donc voilà, c'est la raison pour laquelle nous sommes arrivés à Lille, parce que j'exerce mes fonctions à Lille, avec une desserte quand même assez loin, puisque je vais jusqu'à Dunkerque. Bon, je ne vais pas vous décrire en long en large, mais enfin, je vais faire quand même pas mal de kilomètres. Et donc nous sommes Lambert-Sartois depuis le début août. Depuis 5 août. Voilà. Quoi d'autre? Est-ce que vous voulez un petit chant? Vous savez, je crois que l'Éternel siège au milieu de la louange de son peuple. Il ne veut pas qu'on ait un... Les sacrifices, c'est terminé, ça, on est bien d'accord. Il n'y a qu'un seul sacrifice qui prévaut, c'est le sacrifice de Christ à la croix. Vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous pouvez lever la main pour dire que vous êtes d'accord avec ça? Ah. Jésus-Christ s'est sacrifié à la croix pour nous purifier de nos péchés et pour nous donner accès libre au Père. Il a déchiré le voile. Et ça, c'est extraordinaire. Il nous a assis déjà dans les lieux célestes avec lui. Et tout ça pour dire qu'au travers de la louange, il se passe des choses. Quand je vous disais dans les années où on a vécu ailleurs, où je mouillais le carrelage de mes larmes pendant la louange, Dieu parle au cœur directement. La louange que vous exprimez, c'est le sacrifice que Dieu veut. C'est le seul sacrifice que Dieu veut que nous fassions pour lui. Pourquoi ? Parce que quand on loue Dieu, on lui parle de cœur à cœur. Quand on dit « Seigneur, je t'aime », en plus en chantant, lui qui est l'inventeur de la musique, il se passe des choses. Dieu guérit, Dieu console. Et voilà, moi j'ai envie de vous partager ça ce matin avec un chant que je vais faire avec ma fille Esther. Alors on l'a un peu répété hier soir vite fait, ça faisait un petit bout de temps qu'on ne l'avait pas chanté, donc il y aura peut-être quelques canards, mais... avec un sourire, ça passe mieux. Alors, c'est un chant que vous connaissez, hein, La voix du Seigneur m'appelle. Mais c'est... je peux mettre un peu plus fort la guitare? Oui. Ouais. C'est un chant qui a été... Vous connaissez Sébastien Demeret? Certains d'entre vous. Il a revu un certain nombre de chants et je trouve ça pas mal.
Du Seigneur m'appelle, prends ta croix, viens et suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi.
Jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours.
Jésus donne grâce et gloire pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, paix et bonheur ici-bas. Oh.
Jusqu'au bout, je veux te suivre. Dans les bons, les mauvais jours, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Dans les bons, les mauvais jours, à toi pour mourir et vivre. À toi, Jésus, pour toujours.
Jésus, donne grâce et gloire pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, paix et bonheur ici-bas.
Ensemble.
Jusqu'au bout, je veux te suivre. Dans les bons,
dans les bons,
les mauvais
jours.
À toi pour mourir et vivre. À toi, Jésus, pour toujours.
Encore.
Jusqu'au bout, je veux te suivre. Dans les bons, les mauvais jours, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout, je veux te suivre, coûte que coûte. Je veux te suivre jusqu'au bout. Je veux te suivre coûte que coûte. Je veux te suivre.
On peut faire ensemble?
Jusqu'au bout. Je veux te suivre coûte que coûte. Je veux te suivre jusqu'au bout. Je veux te suivre, coûte que coûte, je veux te suivre.
Jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, Seigneur, nous voulons te suivre, quelles que soient les tempêtes, quelles que soient les circonstances, parce que tu es Dieu, parce que tu as les paroles de la vie. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, ne comprenez pas, on ne comprend pas ce qui nous arrive. Souvent, on est là, on constate, on est dans l'épreuve, on est dans la maladie. Mais toi seul, Seigneur, connais l'issue. Et cette issue, Seigneur, elle est glorieuse parce que nous savons que notre chemin est tracé. Parce que nous savons que nous sommes dans tes mains. Oh, quelle grâce d'avoir cette relation avec toi, Père, par Jésus-Christ. Par ton Saint-Esprit que tu nous as donné, quel consolateur merveilleux, quel consolateur formidable nous pouvons avoir. Merci Seigneur. Merci Seigneur de ne pas nous ôter de l'épreuve, mais de nous aider à la traverser. Parce que tu es dans la barque, Seigneur. Même si on a souvent l'impression que tu ne dors pas. Tu es là, tu veilles sur nous. Et merci pour cette issue glorieuse. Merci pour ta présence dans nos vies. Merci parce que tu nous encourages à chaque instant. Amen.